Émission On en jase sur Boulevard 102.1. Il est présentement 12h31. La neige devrait s'en venir parce que si on se fie à notre prochaine chroniqueuse spécialiste en politique américaine, Pascal CV, est pognée dans la neige dans le coin de Montréal.
À Montréal, la fameuse tempête est bien commencée. C'est ça qu'on a compris.
Alors, elle est au bout du fil, Valérie Beaudoin, spécialiste en politique américaine. Valérie, j'espère que tu es en sécurité présentement.
Ben oui, je suis dérangée.
Excellent.
Sur le bord de la route.
Merci beaucoup, Valérie, de prendre quelques minutes avec nous. Je le disais avant la pause, on parle de destitution pour le secrétaire à la santé, Robert Kennedy Jr. Ce n'était qu'une question de temps, Valérie, parce que là, à un moment donné, quand tu ne crois pas au vaccin et à la science, tu ne peux pas vraiment être secrétaire à la santé.
Mais pour ceux qui aimeraient voir Robert Kennedy Jr. quitter son poste, ça risque pas d'être la solution parce que même s'il y a quelqu'un qui a écrit ce qu'on appelle des articles d'impeachment là pour aller vers un procès en destitution, et elle est à peu près seule dans son club pour aller de l'avant parce que c'est une démocrate qui veut faire parler d'elle parce que bref, elle veut avoir un siège au Sénat au Michigan. Et là, même son propre leader, là, pour l'instant, est pas d'accord avec... Il veut pas aller de l'avant avec ça. On dit qu'on rentre trop dans une espèce de cirque et de procès politique parce que il faut quand même réaliser que les Républicains contrôlent à la fois le Sénat et la Chambre des représentants. Alors, de faire ça, est-ce que ça va servir vraiment à grand-chose à part d'en parler parce que finalement, ben on sait que ça passera pas ni la première étape, ni la deuxième qui est encore plus difficile parce que je rappelle aux gens, on a quand même eu 2% des décisions de Donald Trump, là, mais ça fait quand même un petit bout. Il y a une partie où on vote à la Chambre des représentants, mais après ça, au Sénat, il faut avoir 60 votes sur 100 pour vraiment que la personne soit destituée. Alors, c'est déjà extrêmement difficile quand c'est l'autre parti qui est en poste. Donc là, dans les circonstances, c'est peut-être une bonne façon de parler de Robert Kennedy Jr., mais ça n'ira pas bien, bien loin, là, cette idée-là.
Valérie, également dans un autre dossier, je regarde toujours aller les élections en fonction là, justement des élections de mi-mandat, donc les élections qu'on a à l'heure actuelle. Et hier, mes yeux étaient tournés sur la ville de Miami, Ellen Higgins, qui a reçu 60 % des suffrages, qui devient la nouvelle mairesse de la ville de Miami. Elle est identifiée au Parti démocrate. Une autre grosse perte est directement dans le fief de Donald Trump en Floride pour les Républicains.
Oui, parce que ça fait depuis 1998 qu'on n'a pas eu de maire ou de mairesse démocrate à Miami. Et cette partie-là de la Floride, donc le sud de la Floride, fait un virage là, dans les dernières années beaucoup plus à droite que par le passé. Hein. Ça restait que même s'il y avait des maires ou mairesse républicains, le reste, il y avait quand même beaucoup de démocrates qui étaient élus. Dans les dernières années, on voit que c'est de plus en plus de sièges pour les républicains. Donc non, c'est pas une bonne nouvelle, surtout que le candidat qui opposait justement la nouvelle mairesse élue était un candidat directement appuyé par Donald Trump, qui avait travaillé lui aussi à la ville de Miami. Et finalement, ben, il n'a pas perdu par 1 ou 2 points de pourcentage, là. Tu sais, c'est quand même, lorsque c'est une course serrée et qu'on réussit à avoir 60% des voix, c'est quand même une victoire qui est assez intéressante pour la démocrate. Et ça s'inscrit dans la série de toutes les élections spéciales qu'on a eues. Les victoires, bon, New Jersey, Virginie, il y a eu d'autres victoires, là, on en a moins parlé, mais par exemple, en Pennsylvanie, en Géorgie. Donc, les démocrates ont fait des gains, surtout, il y a eu de plus en plus de gens qui ont voté dans certaines courses. Donc, est-ce que ça nous donne une petite indication pour les mi-mandats qui sont dans un petit peu moins d'un an? Oui, ça peut être une bonne nouvelle pour les démocrates, mais il y a tellement de choses. On le sait, on le voit, que ce soit pour au Québec, au Canada, ça peut changer très, très rapidement en politique. Et parlez-en, je fais toujours le parallèle avec Pierre Poilievre qui était en avance dans les sondages pendant combien de temps? Et on a eu le revirement de situation. Et finalement, c'est Mark Carney qui a été élu quelques mois plus tard. Donc, on n'est jamais à l'abri, peu importe la famille politique, à un revirement de situation. Donc, pour les démocrates, oui, de belles victoires, mais je pense pas qu'ils doivent se dire que tout est gagné là pour la suite.
Et Valérie, j'aimerais ça parler avec toi d'un autre dossier, en fait. C'est un dossier qui est très, très large parce que il vient en tant que joueur au niveau de l'économie. Il vient aussi en tant que gendre de Donald Trump dans les discussions. Mais Jared Kushner, il joue un peu l'émissaire auprès de Vladimir Poutine concernant la guerre en Ukraine après avoir été un des négociateurs du cessez-le-feu à Gaza. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est que bien qu'il soit dans la garde rapprochée de Donald Trump au niveau personnel et au niveau professionnel, il y aurait peut-être des informations supplémentaires qui seraient venues à ses oreilles parce qu'on le retrouverait au cœur de deux opérations de fusion-acquisition phare en 2025 aux États-Unis.
Oui, ben la dernière, c'est vraiment Paramount qui veut acheter Warner Brothers. Là. Si les gens ont suivi ça dans les derniers jours, il y a comme une espèce de saga dans le milieu des affaires, mais qui est devenue politique parce que Netflix, voulait acheter Warner Brothers. On a dit c'est parfait, ça semblait être conclu. Et là, Paramount qui est arrivé avec une offre hostile. Et ce qu'on apprend, c'est que parmi les investisseurs, les investisseurs qui participent à la transaction, mais qui sont pas directement dans Paramount, eh bien, il y a la firme de Jared Kushner, le gendre, comme tu l'as bien dit, de Donald Trump, qui était même très, très actif dans la première administration Trump. Et lui, il y a des investisseurs lui-même qui viennent d'Arabie Saoudite, du Qatar, d'Abu Dhabi. Alors, est-ce qu'il y aura peut-être un passe-droit pour Paramount? Il y a des gens qui se disent, est-ce qu'ils ont de l'information? Est-ce qu'ils vont utiliser cette carte-là pour dire, mais écoutez, notre transaction va peut-être mieux passer, on va peut-être avoir une meilleure relation avec l'administration actuelle si finalement, mais les gens qui ont des parts dans Warner Brothers disent, on va y aller avec le deal, comme on dit en langage de Trump, de Paramount, et non celui de Netflix. Alors, on voit que, disons que ça doit être un homme occupé. Je sais pas s'il a eu le temps de faire ses cadeaux de Noël pour le Noël à Mar-a-Lago, là, et tout ça, mais ça, c'est un homme qui gère plusieurs dossiers de Jared Kushner, dont celui-là.
Puis quand je lisais les commentaires des gens sur divers réseaux sociaux, en fait, ils sont un peu estomaqué de voir que peut-être il y a des tentacules plus encombrantes puis un petit peu plus inquiétantes que ce qu'on pensait au niveau de la gestion de l'économie aussi, de Donald Trump et de sa garde rapprochée. En terminant, on va te laisser partir après. On sait que tu as une grosse journée, mais il y a des documents de l'enquête qui visent Jeffrey Epstein qui vont pouvoir être rendus publics. C'est ce qu'on a tranché au niveau d'un juge fédéral américain. On trouve la situation assez importante pour ça.
Oui, parce qu'on se souvient qu'il y a eu plusieurs étapes à toute cette histoire-là. Il y a eu la loi qui a passé, qui a été finalement signée par Donald Trump, mais il y avait eu cette demande qu'on donne de l'information en lien avec un grand jury. Un grand jury, là, on n'a pas ça ici au Québec, au Canada, mais c'est vraiment un groupe de gens, comme un des membres d'un jury dans un procès ici, mais c'est avant le procès, qui regarde la preuve dans un dossier et qui par la suite disent, écoutez, on pense qu'il y a suffisamment de preuves pour aller de l'avant avec des accusations. Alors ça fonctionne comme ça dans plusieurs États américains, dans plusieurs procès, et on veut avoir cette information-là qui n'a jamais été rendue publique. Et là, on voit qu'on a franchi une étape supplémentaire. Mais comme dans tout ce qui touche Jeffrey Epstein et ce dossier-là, je suis toujours, on dirait, sur mes gardes en disant, est-ce qu'il va avoir un petit lapin qui va sortir du chapeau et que finalement, on va encore avoir des délais ou des remises en question de tout ça. Mais c'est une bonne nouvelle pour les victimes de Jeffrey Epstein qui souhaitent vraiment que toute l'information disponible soit rendue publique.
Est-ce que Donald Trump doit avoir des craintes, Valérie?
On sait pas, on n'a jamais su pourquoi il s'opposait tant à cette histoire-là.
Hein?
Moi, je fais pas partie du tout des gens qui se disent, c'était un client de Jeffrey Epstein, il est sur une liste. Est-ce qu'il y a des gens qui le connaissent, qui sont peut-être sur une liste, qui seront dans l'embarras, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui... la vérité, c'est qu'on le sait pas, et tant qu'on n'aura pas la fin de l'histoire, on ne le saura jamais. Et on se rappellera qu'il y a eu c'est pas politique, hein, l'histoire de Jeffrey Epstein. Il y a des démocrates, il y a des républicains, il y a des hommes d'affaires aux États-Unis, mais en Europe aussi. Alors, ça touche beaucoup, beaucoup de gens importants. Mais je pense que Donald Trump trouve que c'est une distraction, et c'est ce qu'il répète à maintes et maintes reprises, mais je pense que la distraction, c'est encore plus de vouloir bloquer cette sortie de documents, comme on a vu au cours de l'été. Là, ça a été une saga pendant des semaines et des semaines.
Valérie Beaudoin, on te remercie infiniment pour ton temps aujourd'hui. Tu es spécialiste en politique américaine. C'est toujours un bonheur et un plaisir de te parler.
Donc, je ne sais pas si la neige s'en vient à Québec, mais elle est bien et bien arrivée à Montréal, je vous confirme ça.
Oui, ça s'en vient à Québec, on a des alertes météo en ce sens-là. Prends soin de toi, fais attention sur la route.
Merci, à bientôt.
Salut, merci beaucoup Valérie. C'est Valérie Beaudoin, excellente chroniqueuse et spécialiste en politique américaine. Moi, je retiens, elle a tellement raison. Tenter de bloquer la présentation des documents de Jeffrey Epstein, ça crée plus de distractions que si... C'est là. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces fameux documents-là? Qu'est-ce qui fait si peur à Donald Trump, dans le fond, Pascal?
Oui.
Circulation, Pascal, il y a des problématiques sûrement. Hein?
Incident sur l'autoroute 20S, je vous en parlais un petit peu plus tôt, mais hauteur rivière et de chemin, la voie de gauche qui est bloquée, il y a une sortie de route. Les services d'urgence se sont déplacés. On est rendu au remorquage, mais ça a vraiment ralenti le secteur, je vous rappelle. Autoroute 20S, hauteur rivière et
de
chemin.
Pascal, je te souhaite de ne pas être le Canadien de Montréal parce qu'il y a...
Et ensuite par Suzuki, la pénalité est terminée. Et voilà, le rebond libre pour Holmberg. Holmberg tire et la but! Deux échappés, 2-0. Ma parole,
Pascal. Autre défaite gênante à domicile, défaite de 6-1 du Canadien de Montréal contre le Lightning de Tampa Bay. Et là, on a dit, c'est assez. Jacob Dobesch, je n'ai pas regardé d'arrêter une puck. Sam Montembeau non plus. On va aller chercher le kid. C'est Jacob Fallard qui a été rappelé, le gardien de but de 21 ans, qui a un début de saison exceptionnel avec le Rocket de Laval qui s'amène. Plusieurs disent, c'est trop tôt. On ne peut pas mettre de la pression comme ça sur un jeune. Mais sais-tu quoi? Carey Price, à 20 ans, a été rappelé après une dizaine de matchs en Ligue américaine.
Ah ouais,
Et son premier
match... capable d'en prendre.
Ben, exactement. Jacob Fowler a une carrière universitaire exceptionnelle. Et son premier match à Carey Price, c'était contre qui? C'était contre Sidney Crosby, les Penguins de Pittsburgh.
Parlant de pression.
Ben, Jacob Fowler, ça va être contre qui? Contre Sidney Crosby, les Penguins de Pittsburgh, jeudi, Pascal! Hey, on refait l'histoire avec Jacob Fallard qu'on a fait avec Carey Price. Martin Saint-Louis est de mauvais poil. Il a changé ses trios à l'entraînement aujourd'hui. Slafkovski retourne avec Kapanen puis Demidov. Bolduc revient avec Suzuki puis Caulfield. On a rappelé également le défenseur Adam Ekstrom et le joueur de centre Owen Beck qui prenait la place de Jake Evans à l'entraînement au centre de Josh Anderson et Alexandre Texier. Donc, le Canadien est exclu des séries à l'heure actuelle. Gros match à Pittsburgh jeudi. Oh, parce que la planète hockey est vraiment déprimée à Montréal.
Déprimée, oui. Ben on va peut-être ramener les Nordiques. Ça va peut-être aider à avoir un peu de fun, les faux Nordiques. Là.
Tu sais que la Ligue nationale a dit oui.
Officiellement, c'est fait?
Oui, jeudi le 29 janvier, l'Avalanche du Colorado va porter les chandails des Nordiques au Centre Bell. Je regardais hier, je disais, je vais aller voir les prix des billets, je pourrais y aller avec mes
ça
gars.
Ça peut être achetable. Hein? Ah, c'est ça.
300$ dans le pit. Hey, ça me coûterait avec les taxes 1100$
pour
de
billets. Ouh, pour être dans le pit. Plus la route, plus les lunchs.
Plus l'hôtel, plus tout.
La
TV avec une petite bière pour manger des Nordiques, ça va être parfait.
On joue sur la nostalgie.
Ouais. On vient de voir Pablo Rodriguez à la télévision faire un court point de presse. Rappelle-nous la nouvelle, Pascal, parce que là, ça continue. Le supplice de la goutte sur le Parti libéral. Mais là, c'est pas une goutte, c'est l'océan qui vient d'arriver.
Non, c'est une chaudière là, qui est tombée sur la tête. Même plus ce qu'il y avait dedans, c'est rendu le contenant. L'UPAC a déclenché officiellement une enquête sur le Parti libéral du Québec. Donc, c'est l'unité permanente anticorruption. Est-ce que ça vous ramène à des côtés sombres de la politique qu'on a connus il y a quelques années? Peut-être. Hein? Mais on a décidé de déclencher l'enquête parce que, selon leurs validations qui sont terminées, ben, il y aurait assez d'informations pour ouvrir officiellement une enquête. Et c'est ce qu'a signalé le porte-parole de l'UPAC, Mathieu Galarneau, par écrit aujourd'hui, là, il y a une heure environ, 1h30. Ils vont pas émettre de commentaires supplémentaires. On veut protéger les actions le plus possible de l'UPAC. On veut respecter les droits des personnes impliquées aussi. Puis on veut demeurer confidentiel dans tout ça. On souhaite laisser les enquêteurs faire leur travail. On a assurément les erreurs du passé sur notre route qu'on ne veut pas avoir à nouveau peut-être pour cette enquête-là. Je vous rappelle que le 26 novembre, il y a eu corps policiers qui avaient confirmé avoir en leurs mains des validations d'informations qui concernaient les allégations d'actes répréhensibles visant le Parti libéral du Québec. Il y a des enquêteurs qui avaient rencontré aussi la députée Marois Risky. C'est elle qui a été exclue là, du PLQ dernièrement par Pablo Rodriguez parce que c'était en lien avec sa décision de congédier la directrice de cabinet Geneviève Haynes sans demander à personne, sans le dire à personne, sans donner d'informations là-dessus. Puis l'UPAC a intervenu le jour même que la presse révélait qu'il y avait une discussion entre Marois Risky et le député libéral fédéral Fessai El-Khoury le 14 novembre.
Lambert Drainville, au retour de la pause, va nous parler de cette situation très problématique pour le Parti libéral du Québec qui est présentement en caucus. Si on filmait la porte de Pablo Rodriguez il y a 3 semaines, on était en train de filmer la porte du caucus du Parti libéral. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va suspendre indéfiniment Pablo Rodriguez? Comment le parti va tenter de se sortir de cette autre tuile qui leur est tombée sur la tête? Lambert Drainville au retour de la pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102. On en jase.